un podcast France Culture.
Souvenez-vous, en décembre 2011, un jeune homme de 27 ans au visage poupin était propulsé au sommet de la République populaire démocratique de Corée. Kim Jong-un assurait alors à la population nord-coréenne qu'elle n'aurait plus jamais à se serrer la ceinture. 12 ans plus tard, les sanctions internationales et l'isolement économique du pays ont eu raison de cette promesse, car si les gratte-ciel se multiplient à Pyongyang, la situation économique se dégrade et toute une partie de la population souffre de la faim. Pour ce troisième et dernier épisode de notre série sur les dernières économies communistes du monde, nous avons invité Manon Prudhomme en duplex de Châteauroux, chercheuse à l'EHESS, membre du laboratoire Chine-Corée-Japon, spécialiste du développement urbain à Pyongyang depuis les années 1990. Également avec nous à distance, Théo Clément, chercheur, auteur d'une thèse sur les stratégies d'engagement économique de la Chine à l'égard de la Corée du Nord. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurent Jeanne Pin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Le canon s'est tu en Corée. Un étrange silence s'est établi soudain sur la ligne de feu. D'une position à l'autre, les combattants d'hier sont sortis de leurs trous. Ils s'observent. Des signaux s'échangent. Premier geste sans armes. Pendant 3 ans, des centaines de milliers d'hommes s'opposeraient dans un combat épuisant et mortel. Et dans le monde entier, on parlerait chaque jour de la guerre de Corée. Cependant, à Panmunjom, 2 ans après leur ouverture, les pourparlers d'armistice aboutissaient. La guerre s'est arrêtée, mais les visages sont restés fermés.
Bonjour Manon Prudhomme.
Bonjour.
1953, la guerre de Corée s'achève. Quelques années plus tôt, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le pays se libérait de 40 ans de colonisation japonaise. La Corée était alors séparée en deux, entre soviétiques et américains. Et Kim Il-sung était nommé chef du gouvernement provisoire du Nord par les soviétiques. C'est le début de la domination de la famille Kim sur tout le nord de la Corée, Manon Prudhomme.
C'est effectivement oui le début de ce qu'on aime bien appeler la dynastie des Kim. On pourra peut-être revenir sur le terme en soi, mais oui c'est le début de deux États coréens distincts, à la fois la Corée du Sud, donc au sud de la péninsule, et la Corée du Nord située donc au-dessus du 38e parallèle, avec deux États créés respectivement en août 1948 pour la Corée du Sud et en septembre 1948 pour la Corée du Nord.
Et bonjour Théo Clément.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci à tous les deux. On a commencé à discuter avec Manon Prudhomme de cette séparation en deux États distincts en 1953. Est-ce que c'est à ce moment-là que naît en Corée du Nord l'idée d'un modèle communiste autosuffisant sur le plan économique ?
Non, pas exactement. En fait, c'est une idée qui trotte dans la tête de Kim Il-sung, donc à l'époque où c'est un guerrier basé dans le nord-est de la Chine, où il se bat à la fois contre les nationalistes chinois, donc opposés au Parti communiste chinois, et l'armée japonaise. Et en fait, donc pendant cette période de formation militaire, politique, intellectuelle pour Kim Il-sung, il pioche à gauche à droite dans le corpus doctrinaire socialiste, à la fois côté chinois, côté soviétique, etc. Et en fait, il y vient à développer progressivement, alors c'est très flou au début, sa propre doctrine, mais qui en fait sera vraiment formalisée que bien plus tard, dans les années 50, dans un discours qui est assez célèbre, du 28 décembre 1955, il utilise le terme « juche », donc qui est difficile à traduire, mais autosuffisance, self-reliance, l'idée d'être non pas en autarcie, mais en autonomie relative vis-à-vis des différents partenaires, non pas pour des raisons qui sont tant idéologiques ou doctrinaires, mais pour des raisons assez opportunistes. Il s'agissait à l'époque, dans le contexte des années 50, de lutter contre des factions d'influence au sein du Parti du Travail de Corée, donc le parti quasi unique en Corée du Nord, le but étant de faire pièce à l'influence chinoise et soviétique à travers des factions au sein du Parti du Travail.
Et alors, comment ce modèle du juche se traduit-il concrètement ? Quelle politique économique est menée dans les années 50, Théo Clément ?
Alors, dans les années 50, c'est un contexte qui est très particulier puisque c'est le contexte donc, de la fin de la guerre de Corée. Et là, pendant la guerre de Corée, surtout à partir de 1951-52, la Corée du Nord a été complètement rasée par les bombardements alors de l'ONU, mais concrètement les bombardements américains. Et du coup, là, on se retrouve dans une situation de table rase un peu, où tous les pays du bloc socialiste vont contribuer, et notamment l'URSS et la Chine, vont contribuer pour renforcer, reconstruire, rebâtir, renforcer la Corée du Nord, qui fait pièce de, qui a un rempart stratégique très important dans le contexte de la guerre froide. En fait, tout le monde a besoin d'une Corée du Nord très forte, et les Soviétiques et les Chinois déversent littéralement des tonnes de matériel et de prêts financiers vis-à-vis de la Corée du Nord, ce qui est à la fois, alors évidemment, très bénéfique à l'économie de la Corée du Nord. C'est très difficile à imaginer pour nous, mais on parle d'une période où la Corée du Nord était beaucoup plus développée que la Corée du Sud, sauf que ça contribue aussi à un phénomène de dépendance économique très forte vis-à-vis de l'URSS, de la Chine.
Alors même que la Corée du Nord cherche à développer, à suivre sa propre voie et ne pas se contenter justement d'imiter les modèles soviétiques ou maoïstes, Théo Clément.
Eh ben, c'est exactement ça que Kim Il-sung a essayé de naviguer durant ces années, c'est-à-dire bénéficier au maximum des largesses soviétiques et chinoises et du bloc de l'Est, tout en maintenant à distance au maximum les conseillers militaires, les conseillers politiques soviétiques et chinois qui voulaient imposer une certaine forme de politique économique en Corée du Nord, intégrer plus ou moins de force la Corée du Nord dans la division du travail qui était celle du bloc de l'Est, et Kim Il-sung se débrouillait pour que la Corée du Nord ait ses propres politiques économiques tout en dépendant fondamentalement de l'aide soviétique et chinoise. Donc
oui,
c'était extrêmement difficile à naviguer.
Ce sont des aides, ces aides soviétiques et chinoises, qui permettent à la Corée du Nord de lancer un mouvement d'industrialisation dans les années 50, pardon, ou plutôt, faudrait-il dire, une ébauche d'industrialisation, Théo Clément ?
Ah ben non, c'est pas du tout une ébauche d'industrialisation, c'est une industrialisation massive. La meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est l'URSS de Staline. On parle d'une période où, au début des années 60, la production électrique de la Corée du Nord était à peu près équivalente à celle du Japon. C'est-à-dire que sur certains secteurs bien, bien spécifiques, la Corée du Nord avait rattrapé l'ancien colonisateur qui avait pourtant complètement exploité l'intégralité de la péninsule et de sa population. Donc, John Robinson, qui était une économiste américaine, parle de l'âge d'or économique nord-coréen, du miracle économique nord-coréen. Donc,
oui, mais la Corée du Nord n'est pas du tout compétitive. Ce sont des produits qui sont chers et de piètre qualité qui sont produits dans le pays, non, Théo Clément ?
Alors complètement, mais là on est dans les années 50 en fait, donc on est dans une période de reconstruction, on n'en est pas du tout à ce stade-là. On parle de construction d'infrastructures, on parle de construction de jeter les jalons d'une industrialisation. Après, à partir des 60, 70, 80, effectivement, quand l'aide soviétique et chinoise descend et que diminue et que les Nord-Coréens vont devoir être mis en concurrence sur les marchés internationaux, là les choses vont être déjà beaucoup plus compliquées.
Manon Prudhomme, sur cette industrialisation nord-coréenne dans les années 50, qualifiée d'âge d'or par Joanne Robinson.
Je rejoins totalement ce que dit Théo. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le contexte des années 50, où des politiques, à la fois en Corée du Sud et en Corée du Nord, qui ont toutes les deux, les deux parties de la péninsule ont souffert de la guerre. On a deux pays détruits. La Corée du Nord est même beaucoup plus détruite que la Corée du Sud. La Corée du Nord va très bien réussir sa période de reconstruction, ce qui n'est pas le cas nécessairement en Corée du Sud. Ça va être beaucoup plus long, la période de reconstruction à la fois des infrastructures industrielles qui avaient été implantées pendant la période de colonisation japonaise. La Corée du Nord a aussi eu cet avantage là par rapport à la Corée du Sud, c'est que ces infrastructures industrielles sont plus importantes par rapport au sud de la péninsule.
La Corée du Nord réussit sa période de reconstruction, mais elle peine à s'affranchir de l'aide de la Chine et de l'URSS dans les décennies qui suivent cette décennie de reconstruction, Théo Clément ?
Alors, c'est une question très compliquée parce qu'elle ne peine pas forcément à s'affranchir. Elle cherche à changer les termes de l'échange. En fait, les Nord-Coréens ont toujours vu d'un très bon œil, en fait, les millions d'aide financière, militaire, économique qui arrivait en Corée du Nord. Par contre, ce qu'ils ne voulaient pas, ce sur lequel ils étaient très attentifs, c'est de faire en sorte que cette aide ne vienne pas changer les politiques économiques internes décidées par le Parti du Travail de Corée. Donc, ce qui était véritablement difficile, et le schisme sino-soviétique a permis de faciliter les choses pour les Nord-Coréens, ça a été de convaincre ou de lutter contre certaines formes d'influence plus ou moins évidentes et plus ou moins subtiles de la part de l'URSS et la Chine jusque au moins dans les années 80.
Mais après la chute de l'URSS, la situation économique de la Corée du Nord se détériore et une famine éclate dans le pays.
Dans tout le nord de la Corée, c'est la disette. Seule l'aide alimentaire rationnée parvient à la population. Toutes les réserves de grains sont épuisées à cause de mauvaises récoltes et des inondations de 1995 et de 1996. Les enfants sont les plus exposés. Leur poids et leur taille sont inférieurs à la normale. Selon le ministère de la Santé, 800 000 d'entre eux âgés de moins de 6 ans souffrent de malnutrition. 10% seraient en danger de mort. Les mieux lotis sont envoyés par leurs parents dans ces jardins d'enfants ou dans ces crèches où est servi un repas par jour envoyé par l'UNICEF. Mais la plupart de ces établissements doivent fermer faute de vivres.
Voilà un reportage de France du 18 juillet 1997. Que sait-on, Manon Prudhomme, de cette famine qui a frappé la Corée du Nord entre 1994 et 1997 ?
Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une famine qui est apparue du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on a vu, en tout cas aujourd'hui, qu'on peut observer déjà. On a vu les premiers signes de faiblesse économique apparaître dans le courant des années 80 et encore plus à la fin des années 80. Pour ce qui est, par exemple, c'est plus mon domaine de recherche, mais pour ce qui est, par exemple, des constructions à Pyongyang notamment, on a observé la fin des années 80, début des années 90, un arrêt total des constructions au sein même de la capitale. C'est dû à plusieurs facteurs. Et ça, je pense que Théo aussi pourra rebondir dessus, mais à la fois la fin du bloc socialiste dès la fin des années 80, l'effondrement du bloc soviétique, le début des réformes aussi en Chine, la perte donc des alliés historiques de la Corée du Nord, et puis de manière plutôt générale, hein, c'est une mauvaise gestion d'un système tout entier que la Corée du Nord n'a pas su gérer, et ensuite par-dessus se rajoute ce qu'on entendait là dans le reportage de France 2, c'est-à-dire des catastrophes naturelles qui sont arrivées au milieu des années 90, qui a entraîné l'effondrement et l'arrêt du système de distribution publique.
Oui, mais ce qu'il faut souligner effectivement, Théo Clément, c'est que cette famine est aussi liée à de mauvais choix économiques du régime.
Alors, Manon Prudhomme a tout à fait raison de dire que les causes sont vraiment multifactorielles. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les Chinois et les Russes qui ont fini par dire au cours des années 80 à la Corée du Nord que s'ils voulaient des biens de qualité, etc., il fallait payer, et notamment payer en devise, ce que les Nord-Coréens n'avaient pas. Mais de fait, à partir de la fin 1975, c'est le moment où la Corée du Sud dépasse en termes de développement économique la Corée du Nord. Alors selon différents indicateurs, la décennie 80, Manon l'a expliqué, on voit un ralentissement économique de la Corée du Nord qui devient de plus en plus visible. En fait, les Nord-Coréens se retrouvent à fabriquer, alors certes, beaucoup de biens très divers, ce qui est assez rare pour un pays aussi pauvre, même si j'aime pas trop le terme. Mais se retrouve avec des ressources de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à récupérer, et notamment le pétrole, qui n'est pas trouvable, qui n'a jamais été véritablement produit en Corée du Nord. Et sans pétrole, pas d'essence, les Soviétiques ont arrêté les livraisons les Russes, du coup, l'ancienne Union soviétique a arrêté les livraisons de pétrole à Corée du Nord au début des années 90. Sans pétrole, pas de tracteurs, et les récoltes se sont mis à pourrir sur pied, en fait. C'est ça qui a créé véritablement la famine, en fait, qui a été la dernière cause du déclenchement de la famine, c'est le fait que toutes les récoltes nord-coréennes sont mises à pourrir sur pied. Il y avait plus d'alimentation dans le pays, et les Nord-Coréens dépendent d'un système qui est un héritage et qui existe encore toujours d'ailleurs techniquement de la période socialiste, qui est le système de distribution publique. Les Nord-Coréens ont droit à une sorte de rationnement, à un un prix symbolique de grains, de riz, de rations alimentaires hebdomadaires ou mensuelles. Et ça, en fait, ça s'est écroulé. C'est ça qui a véritablement déclenché une famine généralisée.
Oui, et Pyongyang est alors obligé de faire appel à l'aide internationale. C'est une famine qui va obliger Kim Jong-il, qui est arrivé au pouvoir en 1994, après la mort de son père Kim Il-sung, à repenser sa politique économique, Manon Prudhomme.
C'est assez particulier, c'est une période très très intéressante en Corée du Nord. Les années 90 sont, selon moi, et beaucoup de, avec beaucoup de collègues, nous partageons cette idée, c'est que les années 90, donc la période de la famine qui est aussi appelée en Corée du Nord la dure marche, on n'admet pas le terme famine, on appelle ça une dure marche. Cette période-là est une période charnière dans l'histoire de la Corée du Nord, à la fois l'histoire économique et à la fois l'histoire sociale. Ça entraîne des bouleversements économiques et sociaux. Et Kim Jong-il n'a pas vraiment le choix, c'est que il se passe des phénomènes sociaux marquants, notamment l'explosion, littéralement l'explosion de marchés à travers tout le pays pendant la famine, les gens n'ayant pas le choix, pas d'autre choix que de marchander, de faire du troc, d'aller chercher de la nourriture de l'autre côté de la frontière, donc du côté de la Chine, vont commencer à trouver en tout cas vont essayer de trouver des stratégies pour pouvoir simplement se nourrir, puisque l'État n'est pas en mesure de fournir la nourriture via les tickets de rationnement et le système de distribution publique. Donc,
oui, et puis il faut le dire, pardon de vous couper, Madame Prudhomme, mais que la famine aurait fait entre 1 et 3 millions de morts. Oui. C'est absolument considérable pour une population nord-coréenne d'environ 20 millions d'habitants à l'époque.
Alors oui, à l'époque, oui, ça doit être à peu près 20 millions. Les chiffres, on n'a aucun chiffre précis. Mmh. Effectivement, les plus hautes estimations montent jusqu'à 3 millions. Nous, on est, en tout cas avec beaucoup de collègues, on estime entre 500 000 et 1 million de morts pendant cette période. C'est très difficile de donner un chiffre exact, puisque effectivement la situation était telle que aucune ONG n'a pu établir de statistiques, et évidemment la Corée du Nord n'a pas non plus communiqué dessus.
Mais c'est en tout cas un moment où on voit un début d'ouverture économique du côté de la Corée du Nord. Comment est-ce que ça se traduit concrètement, Manon Prudhomme? Vous avez évoqué ces marchés informels qui se développent, mais il y a aussi la création d'une zone économique assez spéciale qui va susciter beaucoup d'espoir.
Alors ça, pour les zones économiques spéciales, je vais laisser Théo en parler, parce que pour le coup, c'est le sujet, enfin c'est son sujet de, c'était sa thèse, donc je ne vais pas m'aventurer sur les zones économiques spéciales, mais plutôt sur les marchés. Il n'y a pas un passage d'un système à un autre. La Corée du Nord, techniquement, n'a jamais abandonné son système politique et économique. Hein. Jamais de la vie, la Corée du Nord n'est passée à autre chose sur le plan économique. Toujours est-il que les marchés, avec les sources qu'on a jusqu'à aujourd'hui, hein, donc des Nord-Coréens qui sont partis, des visites sur place, les marchés au début étaient effectivement informels et totalement illégaux, puisque l'idéologie socialiste voudrait qu'il n'y a pas de marché, mais ils ont été progressivement légalisés, c'est-à-dire que les autorités nord-coréennes n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter ce changement qui était en train de se produire dans les années 90. Et il y a eu une période de... Bon, les autorités acceptent, et puis il y a eu des débuts de réformes. Alors en Corée du Nord, on n'appelle pas ça des réformes, on appelle ça des mesures économiques, donc une revalorisation des salaires, la légalisation des marchés, donc les marchés illégaux qui deviennent des marchés généraux et qui sont aujourd'hui visibles. Hein. En Corée du Nord, ce n'est même plus tellement caché, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marchés un peu partout, dans chaque, à la fois à Pyongyang et dans les villes en province.
Oui, des marchés sur lesquels on trouve d'ailleurs quantité de marchandises étrangères. Et cela, pour le coup, ça n'est pas légal, Manon Prudhomme.
Alors, ce n'est pas légal, oui, puisque techniquement, il y a des sanctions. Donc, les Nations Unies votent très régulièrement des sanctions à l'encontre donc de la Corée du Nord. Donc, techniquement, effectivement, on ne pourrait pas avoir accès à des biens étrangers.
Dans les faits, il y a des contournements.
Dans les faits, il y a beaucoup de contournements. Il suffit de se rendre à l'aéroport de Pékin, dans les salles d'embarquement pour Pyongyang quand il y a des avions, puisque depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué. Les Nord-Coréens font le plein de marchandises, d'électroménager, le train. Quand vous prenez le train à Dandong, donc qui est la ville à la frontière nord-coréenne, c'est pareil, c'est un point de passage, c'est une frontière très poreuse. Et les autorités chinoises laissent aussi passer sur les marchés à Pyongyang, puisque pour le coup, je ne peux parler que de Pyongyang. Vous pouvez acheter absolument tout et n'importe quoi. Vous avez du coca chinois. Donc, enfin, c'est la marque Coca-Cola, mais c'est écrit en chinois. Vous avez dans des grands centres commerciaux, vous avez de l'électroménager Philips, vous avez des appareils photo Nikon, Canon, vous avez parfois des écrans de télé Samsung, donc une marque sud-coréenne qui ne passe pas techniquement les frontières, mais qui se retrouve comme par hasard, enfin en tout cas pas par hasard du tout, mais qui se retrouve effectivement en Corée du Nord.
Cette ouverture économique, je le disais, a suscité beaucoup d'espoir à l'époque. Théo Clément, beaucoup d'observateurs occidentaux ont pensé que la Corée du Nord allait se lancer dans une libéralisation à la chinoise.
Alors beaucoup d'observateurs, mais alors moi j'étais pas chercheur à l'époque et je pense que je serais tombé exactement dans le même travers, si vous voulez. En fait, les Nord-Coréens ont été très doués pour jouer sur un biais cognitif qu'ont les observateurs occidentaux, à savoir à chaque fois que la Corée du Nord annonce une réforme ou une mesure, tout le monde se dit ça y est, ils font comme les Chinois, ça y est, ils font comme les Chinois, ça y est, ils font comme nous en fait. Ou alors du moins ils se rapprochent de notre modèle unique qui est le seul à fonctionner. Clairement, ça n'a pas du tout été. Alors il y a eu certains éléments qui allaient dans ce sens-là, certains éléments qui allaient dans le sens parfaitement opposé, mais il y a eu un véritable mouvement de réforme. Les Nord-Coréens ont changé certains aspects, y compris des aspects qui étaient fondamentaux de l'économie de la guerre froide, et ont cherché à attirer les investissements étrangers. Ça, c'était pas forcément une nouveauté, mais surtout, ils ont, alors notamment en début des années 2000 jusqu'à 2010-15, ils ont accepté d'intégrer une place dans la division du travail qui leur a été concrètement imposée par les Chinois, puisqu'à cette époque-là, il y avait à peu près que la Chine qui était volontaire pour échanger avec la Corée du Nord, ce qui est vraiment un changement, alors non dit tacite, mais concrètement un changement à 180 degrés vis-à-vis de la politique économique de Kim Il-sung, par exemple.
Sauf que ça s'est pas très bien passé, puisque les Chinois ont été largement accusés par les Nord-Coréens d'agir en réalité comme des colons, Théo Clément.
Alors, pas directement, évidemment, pas de manière aussi ouverte. Moi, je sais qu'en entretien, j'ai eu plusieurs diplomates nord-coréens qui m'ont dit que les Chinois étaient des impérialistes. Quand vous allez en Corée du Nord et que vous avez des discussions, alors moi, avec mes collègues économistes nord-coréens, si on se connaît suffisamment, on arrive très très vite à l'idée selon laquelle les Chinois ont mis en place des politiques qui étaient effectivement des politiques d'ordre néocolonial. En gros, l'idée c'était de transformer les montagnes nord-coréennes en espèce de gruyère, récupérer l'immense magot que constituent les ressources naturelles nord-coréennes et, comme l'a expliqué Manon, vendre aux Nord-Coréens des produits à haute valeur ajoutée, des produits manufacturés qui venaient de Chine, ce qui de facto place la Corée du Nord dans une position de soumission et de rattrapage économique qui est très très compliqué, en tout cas du point de vue nord-coréen. Donc c'est pas du tout étonnant qu'en 2016, en plein congrès du parti, Kim Jong-un, donc, qui était devenu le secrétaire général, parle des vents pourris de la réforme et de l'ouverture, donc vraiment les termes chinois qui soufflent dans notre voisinage, et en expliquant qu'eux, ils allaient continuer la voie du douché.
Et c'est en particulier, j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure à Manon Prudhomme, la création d'une zone économique spéciale près de la frontière entre les deux Corées, qui a laissé entendre que peut-être la Corée du Nord allait s'ouvrir à une économie libérale.
Oui et non. En fait, des zones économiques spéciales, il y en a eu beaucoup en Corée. Il y en a beaucoup actuellement. Alors, ça s'appelle pas des zones économiques spéciales parce que c'est un vocable un peu chinois, mais ça s'appelle des zones de développement économique. Donc, les premières datent de la fin des années 80, début des années 90. En fait, la zone de Kaesong a été ouverte dans le cadre d'un partenariat de gouvernement à gouvernement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, si ça a soulevé des espoirs, c'était pas tant des espoirs de libéralisation économique, parce que justement, c'est un système de développement par zone. Donc, le but du jeu, c'est justement de contrôler territorialement certaines expérimentations économiques, mais c'était par contre un phénomène, un espoir véritable en termes de réunification potentielle entre le Nord et le Sud, de discussion entre le Nord et le Sud, alors porté par les sommets intercoréens de 2000 et 2007. Malheureusement, cette expérimentation qui était vraiment historique a été complètement tuée dans l'œuf par l'administration précédente, conservatrice précédente en Corée du Sud.
Et ces réformes économiques du début des années 2000, Manon Prudhomme, ont-elles permis une certaine croissance de l'économie nord-coréenne ?
Au début des années 2000, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, en tout cas pas au début, mais plutôt au milieu, même fin des années 2000, on observe quand même une espèce de relance, une relancée sur le plan économique en Corée du Nord. C'est pas la Corée du Nord comme on le disait en début d'émission. C'est pas du tout la Corée du Nord des années 50-60. On est loin de là. Toujours est-il que les marchés ont permis, en tout cas, à la population d'accéder à beaucoup plus de biens, d'être plus à l'aise et de pouvoir avoir une qualité de vie meilleure. Là où le gouvernement nord-coréen est plutôt flou, c'est que pas grand-chose ne transparaît, pas grand-chose n'est publié ou officiellement dit. Ça serait pas dramatique, mais ça serait problématique, en tout cas, si le gouvernement nord-coréen, au début des années 2000, admettait que des réformes allaient arriver et que le système allait complètement changer. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel se trouve l'état nord-coréen à ce moment-là. Ce qu'on observe, c'est plutôt des changements économiques par le bas. Et ça se voit beaucoup aujourd'hui. Bon, depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais juste avant le Covid, c'est ce qui transparaissait. En tout cas, c'est que la population avait, en tout cas à Pyongyang, hein, là encore, Pyongyang est exceptionnel à l'échelle du pays, mais en tout cas à Pyongyang, des choses avaient changé sur beaucoup de plans. Les gens étaient aujourd'hui un peu plus capables d'avoir une qualité de vie un peu meilleure et ce n'était visiblement pas totalement grâce à l'État, c'était en partie grâce au marché.
C'est en 2011 qu'un changement important survient, évidemment, puisque le dirigeant suprême de la République populaire de Corée du Nord s'éteint brutalement et Kim Jong-un succède à son père. Une nouvelle ère économique commence, on en parle dans un instant. La chanteuse nord-coréenne Chloé Samsook sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, Corée du Nord, planifier l'autarcie, c'est notre sujet. Aujourd'hui, Manon Prudhomme et Théo Clément sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Cassandre Puel avec l'aide d'Émilie Lacou et mise en onde par Ruben Carmazine. Yeah. dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrive donc au pouvoir en 2011, à l'âge de 27 ans environ. On ne sait pas exactement quelle est sa date de naissance. Cette arrivée de Kim Jong-un correspond à une nouvelle tentative d'ouverture de l'économie, Manon Prud'homme.
Une ouverture, on peut peut-être discuter sur le terme d'ouverture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'arrivée de Kim Jong-un signe un autre chapitre économique en Corée du Nord. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand Kim Jong-un arrive, d'abord, on ne le connaît que très peu. Il est, contrairement à Kim Jong-il, qui lui avait été introduit dans les sphères de pouvoir finalement assez tôt, hein, dans les années 70, Kim Jong-un est introduit dans les sphères du pouvoir que très tardivement. Donc, que quelques années avant la mort de son père, donc Kim Jong-il. Et quand il arrive au pouvoir, ce qui est très frappant, c'est d'abord sa ressemblance physique avec son grand-père, donc le fondateur de l'État nord-coréen, Kim Il-sung. C'est assez frappant et inévitablement, la période de Kim Il-sung est synonyme de prospérité économique pour une grande partie des citoyens nord-coréens. Donc il y a Kim Jong-un joue beaucoup de ça. Au début, il adopte les mêmes postures, il va dans ses discours rappeler certains slogans que son grand-père avait utilisés, il va s'habiller parfois de la même manière, etc.
Donc, oui, puis il parle de prospérité, en tout cas de développement.
Oui. Oui, oui, il y a un nouveau cap politique et économique qui est avancé par Kim Jong-un, qu'on appelle la politique Byongjin, qui est donc le développement simultané de l'armement nucléaire, enfin en tout cas de la puissance nucléaire. Il s'agit pas seulement de l'arme nucléaire, il s'agit aussi du nucléaire civil et du développement économique. Et ça va se traduire, en tout cas dans la ville par exemple de Pyongyang, ça va se traduire par des constructions à très grande échelle de quartiers résidentiels, de parcs de loisirs, de nouvelles infrastructures sociales et culturelles dans Pyongyang et par la suite aussi dans des villes de province, donc des stations balnéaires qui sont encore d'ailleurs en travaux, des stations de ski, etc., etc.
Donc Kim Jong-un ouvre la voie à l'essor d'une économie hybride, pourrait-on dire, Théo Clément, une économie qui est partiellement une économie de marché.
Comme l'a expliqué Manon Prud'homme tout à l'heure, pendant la famine, il y a eu cette marchandisation par le bas de la société, et depuis, les Nord-Coréens sont dans un mouvement qui est un peu, alors qui est pas ambigu, qui est assez, qui est relativement assez subtil, à la fois bénéficier des avantages économiques que ça peut représentant, tout en essayant de garder le contrôle, de préserver les aspects socio-économiques du pays, d'empêcher que ces marchés aient un impact trop fort sur la société nord-coréenne. Je pense pas que Kim Jong-un lui-même ait initié véritablement un mouvement de réforme. Si on regarde les discours et les textes du gouvernement nord-coréen ou Kim Jong-un lui-même sur ces questions, c'est un peu ambigu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas forcément cherché à étouffer dans l'œuf cette réforme. Il y a eu certains éléments de centralisation, mais qui peuvent peut-être plus être des questions de contexte, dans le contexte très particulier du Covid ou de ce genre de choses.
Mais il y a en tout cas une élite affairiste qui voit le jour, une élite qui s'est enrichie grâce au commerce avec la Chine, Théo Clément.
Oui, alors il y a ça indéniablement. Moi, j'ai rencontré des Nord-Coréens à Pékin qui étaient clairement des gens qui faisaient partie de l'élite mondiale, pas seulement de la Corée du Nord. Il y a des personnalités politiques de très très haut niveau en Corée du Nord, donc le fameux oncle, qui ont été purgés et éliminés apparemment physiquement du fait de leurs relations très proches et du point de vue du gouvernement, en tout cas très coupables avec la Chine, parce que
justement... Vous faites référence à cet oncle par alliance qui a été exécuté en 2013, qui aurait voulu faire main basse sur les exportations de charbon vers la Chine, c'est ça Théo Clément?
Exactement, Jang Song-taek, donc, était le mari de la sœur de Kim Jong-il.
Et pardon, je vous laisse poursuivre sur cette élite, effectivement, qui voit le jour.
Alors, il y a une classe... Alors, j'aime pas le terme de classe moyenne, mais quand vous baladez à Pyongyang, et Manon Prud'homme l'expliquera mieux que moi, vous avez effectivement cette impression qu'il y a une certaine classe de consommateurs qui a accès à des biens de consommation qu'on trouvait auparavant pas en Corée du Nord. Et vous avez une petite poignée de gens très très bien connectés en Corée, soit qui vivent à l'étranger, soit qui sont restés en Corée, et qui, eux, bénéficient véritablement de l'ouverture relative de l'économie de la Corée du Nord. D'après ce que je crois interpréter, j'ai l'impression que le gouvernement central nord-coréen essaie de resserrer les rênes et de récupérer les différents assets de ces groupes, de ces grandes compagnies, de ces familles devenues puissantes, mais de les réintégrer sous l'ombrelle politique de la Corée du Nord. Alors après, évidemment, j'ai pas du tout de détails sur dans quelle mesure ça se concrétise.
D'après un sondage auprès des Nord-Coréens, réalisé chaque année, les réfugiés préfèrent Kim Jong-un à son père. Ils se sentent plus proches de lui. Ils sentent que leur niveau de vie s'améliore, contrairement à Kim Jong-il, qui ne pensait qu'à l'armée. Kim Jong-un n'a pas oublié le côté économique. Il a libéré et promu le marché. Donc les habitants nord-coréens ont plus d'espoir et d'attente pour Kim Jong-un que ce qu'ils espéraient de Kim Jong-il.
Voilà l'ancien conseiller de la présidence sud-coréenne Chung Sang-chang dans un documentaire de Min Joo-sung diffusé sur Public Sénat en 2023, Corée du Nord, un plan pour survivre. Manon Prudhomme, on peut dire vraiment que le niveau de vie global des Nord-Coréens s'est amélioré dans les années 2010.
Je pense, oui, sans être très provocante hein, dans mes propos, oui, je pense que de manière générale, le niveau de vie grâce au marché a augmenté en Corée du Nord. Il y a malgré tout, et ça indéniablement, on ne peut pas le nier, il y a une différence assez frappante entre la capitale, Pyongyang, et le reste des villes et villages du pays. Il suffit de sortir de Pyongyang, la coupure est assez nette et visible entre la capitale et les provinces aux alentours. Toujours est-il que certaines régions, en fait, la période de famine a créé d'importantes différences entre les régions. Entre les provinces nord-coréennes, typiquement les provinces qui sont plus proches de la frontière chinoise, ont pu faire des échanges assez importants depuis la famine. Les biens circulent plutôt aisément, hein. On peut passer la frontière plus facilement. À Pyongyang, c'est très très visible, c'est-à-dire que le niveau de vie est clairement plus élevé qu'en province. Les gens vivent mieux et ça, c'est en partie dû pas aux réformes, mais en tout cas les marchés ont largement contribué à ça, c'est sûr. Après, il est vrai que au sein même de la capitale, il y a aussi des disparités. Il y a des catégories de citoyens qui sont mieux logés, qui ont accès à plus de biens de consommation, qui peuvent plus facilement se payer des biens de qualité, etc. Il y a des disparités au sein même de l'élite entre guillemets de Pyongyang. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir quand je suis partie à Pyongyang avec les étudiants nord-coréens avec qui j'ai cohabité pendant quelques semaines. Il était évident que certains étaient mieux, en tout cas plus à l'aise financièrement que d'autres.
Donc une hausse du niveau de vie liée au fait que, par exemple, en 2016, hein, le pays enregistre sa plus forte croissance en 17 ans, 3,7% selon la Banque centrale de la Corée du Sud. Donc on voit que ces initiatives privées que l'on a évoquées, ou semi-privées, même si elles sont de taille modeste, Théo Clément, ont vraiment permis d'entraîner une croissance de l'économie nord-coréenne.
Alors le chiffre que vous citez, malheureusement, n'a pas vraiment de fiabilité. Donc c'est un chiffre qui vient de la Banque centrale sud-coréenne à l'époque de la transition entre les conservateurs et les démocrates et en Corée du Sud. Et donc, par miracle, quand les conservateurs sont au pouvoir, la Corée du Nord n'a aucun développement économique. Et quand ce sont les démocrates, la Corée du Nord se développe très très vite. De fait, je suis pas sûr que des indicateurs comme le PIB soient hyper adaptés pour parler de la Corée du Nord.
En l'occurrence, la hausse du niveau de vie se constate. Ça, c'est là, indéniable.
Par contre, ça, c'est absolument indéniable. Alors, par contre, elle se constate sur certaines catégories sociales. Il y a des inégalités en Corée du Nord. C'est vraiment un secret de polichinelle. Les Nord-Coréens l'admettent eux-mêmes. Alors qu'ils sont très territorialisés, comme l'a expliqué Manon Prudhomme, mais qui ne sont pas seulement dus au phénomène de marchandisation, en fait. Parce que même s'il y a effectivement une libéralisation très ambiguë par le bas de l'économie de la Corée du Nord, l'État nord-coréen reste quand même particulièrement présent dans l'économie. Les grosses entreprises nord-coréennes sont des entreprises d'État. Et c'est aussi de par la reprise en main de ce secteur étatique qui était vraiment à la ramasse pendant des décennies, le fait de s'intégrer dans un tissu économique qui était peut-être un petit peu plus oxygéné a permis à ces grosses entreprises d'améliorer leur performance. Et d'où les grandes politiques de construction dont Manon Prudhomme a parlé, ces politiques de création de grands ensembles qui permettent de récompenser les citoyens méritants de la Corée du Nord. Ça, c'est typiquement des initiatives qui sont des initiatives d'entreprises d'État qui sont très très liées avec le gouvernement nord-coréen.
Des entreprises d'État qui n'ont absolument aucun rapport avec des initiatives privées. Manon Prudhomme, vous connaissez très bien cette question de la construction des logements en Corée du Nord.
Qui n'ont rien à voir avec les marchés, pas tellement. Alors, il est très difficile, je dois avouer ça reste très difficile de mener des enquêtes sur ces sujets-là. Effectivement, ce sont des entreprises, officiellement, ce sont des entreprises d'État. C'est l'État qui décide, qui planifie, qui gère la construction de grands ensembles résidentiels. Ça, c'est ce que la loi nord-coréenne veut. En pratique, ce qu'on observe, c'est que certaines constructions sont plutôt, en tout cas, sont rendues possibles grâce à des initiatives plutôt privées. Alors, il y a un grand flou de ce côté-là, hein, c'est-à-dire que c'est très tabou de dire que les constructions sont des initiatives, en tout cas, sont faites grâce à des investisseurs privés. Il y a parfois certaines conversations des collègues qui nous disent que de ce côté-là, à gauche de l'avenue, c'est la construction, c'est l'État, et puis l'autre côté, ce sont les entreprises. Oui, mais techniquement, la loi nord-coréenne voudrait que les entreprises soient aussi l'État. Il n'y a pas de distinction, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que, et avec les récits de certains nord-coréens qui sont originaires de Pyongyang et qui vivent aujourd'hui en Corée du Sud, une partie, en tout cas, des constructions pourrait être d'initiative privée, la main d'œuvre, l'acheminement des matériaux de construction, etc., le pétrole, etc. Tout ça pourrait être, en tout cas, les signaux montrent que ça pourrait être grâce à des investisseurs privés. Mais l'État nord-coréen, évidemment, ne le dit pas.
L'émergence de ces marchés, vous l'avez dit, a permis une hausse globale du niveau de vie en Corée du Nord, une nouvelle classe moyenne avide de loisirs est apparue, une classe moyenne qui seront dans les parcs d'attractions construits par le régime sur lesquels vous avez travaillé, Manon Prudhomme. Mais la pandémie de Covid est passée par là.
La période de mise en œuvre de la stratégie quinquennale pour le développement économique national s'est achevée l'année dernière. Elle n'a pas du tout atteint ses objectifs dans presque tous les secteurs. L'année dernière a été difficile avec le contexte de la pandémie qui a duré plus longtemps que prévu. Notre peuple a constamment assuré une situation parfaitement stable et efficiente dans la prévention des maladies infectieuses en surmontant obstinément les difficultés. L'unité consciente de tous les citoyens dans leurs efforts a été maintenue, chacun ayant compris que cela faisait partie intégrante de son devoir patriotique.
Le discours de Kim Jong-un pour la nouvelle année, le 1er janvier 2021, la pandémie a entraîné une détérioration, une grave dégradation de l'économie nord-coréenne et aussi peut-être un recul ou un arrêt de cette timide ouverture économique que nous avons évoquée, Manon Prudhomme.
Alors, c'est vrai que en tout cas depuis le Covid, c'est très compliqué pour nous chercheurs sur la Corée du Nord d'avoir des informations sur la situation actuelle dans le pays. Voilà, on n'a aucun contact avec nos homologues, en tout cas nos collègues nord-coréens avec qui on a l'habitude de travailler. C'est très compliqué. Effectivement, les signaux montrent que la pandémie a également touché la Corée du Nord, qui pourtant, comme ça, on pourrait quand même se dire que parce que la Corée du Nord est isolée, parce que les déplacements sont plutôt contrôlés, la pandémie a moins touché la Corée du Nord. En réalité, ça a aussi touché la Corée du Nord.
Et la conséquence, c'est que les marchés informels sont de moins en moins tolérés par le régime, Manon Prudhomme.
Oui, il y a alors c'est assez courant en Corée du Nord, c'est qu'on a une période où on va très bien tolérer les marchés, ou en tout cas, les autorités vont fermer les yeux. Et puis, quelques mois, quelques années après, on a un rétropédalage parce que, comme l'a dit Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que le régime ne veut absolument pas que les marchés deviennent trop présents, en tout cas que ça prenne trop de place. Donc effectivement, on a eu des signaux, des informations qu'on pouvait avoir là avec les discours de Kim Jong-un et toute la presse nord-coréenne. C'est vrai que visiblement, il semblerait que ça soit un peu plus compliqué. Après, sur le ralentissement économique, étonnamment, la Corée du Nord n'a jamais autant construit que depuis la pandémie. C'est-à-dire que chaque année, depuis 2 ans et demi, il y a des constructions absolument monumentales, notamment en termes de logements qui apparaissent à Pyongyang. Il y en a eu une, encore un quartier résidentiel inauguré il y a le 14, donc il y a 3 jours. Étonnamment, sur le plan, en tout cas en termes de construction, ça n'a pas tellement ralenti le régime.
Théo Clément, sur l'impact de la pandémie sur l'économie nord-coréenne.
Alors moi, je ne parlerai pas du tout d'une grave dégradation. Manon a raison de dire qu'on n'a pas beaucoup de façons de mesurer véritablement l'impact de la pandémie.
Alors, il y a quand même le Programme alimentaire mondial qui estimait en 2022 que 40% de la population était mal nourrie. Après, c'est effectivement sans doute des chiffres à prendre avec précaution.
Non, pas forcément, parce que le PAM fait un super bon boulot de collecte de données en Corée du Nord. Et surtout, par contre, 40%, il faudra vérifier. Mais ça me paraît d'être plus ou moins en ligne avec ce qu'on a connu sur les 5 dernières années. Donc, vous me dire, c'est pas du tout glorieux, mais bon, c'est l'état actuel des choses en Corée du Nord.
Par ailleurs, Kim Jong-un a lui-même admis les difficultés économiques rencontrées lors de la pandémie.
Alors, c'est aussi un grand truc de la Corée du Nord, c'est pas tant de la Corée du Nord d'ailleurs, plutôt c'est un peu une nouveauté qui a été mise en œuvre par Kim Jong-un, c'est de donner le bâton pour se faire battre et se montrer très humble et très très méritant vis-à-vis de la population. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle il est beaucoup plus populaire que son père et son grand-père, je sais pas, mais en tout cas que son père, parce que justement, il a ce côté beaucoup plus humain que les Nord-Coréens reconnaissent.
Mais selon vous, l'économie ne se porte pas si mal que cela, alors Théo Clément ?
Alors, c'est une question qui est très compliquée, parce qu'en termes de développement économique, dans le sens où on l'entend nous, je pense qu'il y a eu au moins une stagnation durant le Covid, parce que par manque d'intrants, suffit tout simplement, en fait.
La rupture des chaînes d'approvisionnement.
La frontière a été quasiment fermée de manière hermétique, donc c'est sûr que la Corée, on peut pas développer une économie dans ces conditions. Par contre, le fait de fermer quasiment intégralement la frontière et ne pas avoir un collapse économique majeur, ne pas avoir une famine généralisée, en tout cas pas visible depuis l'étranger, montre que, en fait, les Nord-Coréens, je pense, le voient plus comme le succès des 60 dernières années de développement économique sur une base qui est pas une base autarcique, mais sur une base qui est très indépendante. De fait, la Corée du Nord fait des biens qui sont de très mauvaise qualité, des constructions qui sont de très mauvaise qualité, qui sont sans doute relativement chères. Par contre, la Corée du Nord est un des seuls pays, dans sa catégorie de développement du moins, un des seuls pays au monde à pouvoir produire un grand nombre de produits avec des ressources internes. Il y a un économiste japonais qui connaît très bien la Corée du Nord, qui parle de la Corée du Nord comme le plus pauvre des pays développés. C'est-à-dire que c'est un pays qui a la capacité de produire une gamme incroyablement large de produits, mais sans jamais faire en sorte que ces produits soient compétitifs ou exportables.
Mais cela pose la question du financement de l'État nord-coréen, particulièrement dans une période de ralentissement ou de stagnation économique. Le régime nord-coréen semble survivre en partie grâce à l'argent des travailleurs émigrés.
Notre mission principale est de rapporter des devises étrangères. Et cet argent gagné à l'étranger est secret, complètement secret. Le bureau 39 a été créé par Kim Jong-il. Voilà comment le système fonctionne. Toutes les sociétés nord-coréennes qui génèrent des devises étrangères sont obligées de le déclarer au Kim. Et ensuite, ils sont tenus de reverser l'intégralité de la somme en liquide. La famille Kim, Kim Jong-un, aujourd'hui, et avant ça, Kim Jong-il, récupère tout cet argent et ensuite le dépense en fonction de ses propres priorités. Il y a donc en réalité deux économies, celle de la famille Kim et l'économie nationale, dirigée par le gouvernement central.
Voilà le témoignage d'un ancien représentant de la banque nord-coréenne North Asia Asia Bank, réfugié depuis 2013 en Corée du Sud, dans le documentaire Les Hommes du Dictateur de Marjolaine Grappe, Christophe Barrère et Mathieu Sellard, diffusé sur Arte, un documentaire qui a reçu le prix Albert Londres en 2018. Le régime nord-coréen parvient à se maintenir grâce à ses financements, Manon Prudhomme?
Je pense que, en tout cas, une partie, oui, effectivement, permet au régime de rester tel qu'il est. Après, dire que il survit uniquement grâce à ça, je ne suis franchement pas sûre. Hein. Je pense que, enfin, là, les dernières semaines nous le montrent. C'est-à-dire que, je pense que la pandémie a aussi été favorable à la Corée du Nord sur ça. C'est que le régime aujourd'hui a renforcé son alliance avec la Russie. Et avec la Chine. Aujourd'hui, la Russie joue un rôle majeur, en tout cas dans les relations avec la Corée du Nord, c'est assez important. Les travailleurs étrangers, il y en a en Corée, il y en a des détachés nord-coréens, il y en a dans beaucoup de pays, notamment, je pense au Moyen-Orient, dans certains pays d'Afrique.
Oui, c'est assez fascinant. Il serait environ 150 000 travailleurs nord-coréens envoyés à l'étranger. 70 à 80% de leur salaire, comme l'explique très bien le documentaire, serait confisqué par le régime. Et ça, ça permet à l'État nord-coréen d'obtenir des devises étrangères. Théo Clément, jusqu'à quel point est-ce que le régime a besoin de ces financements?
Des financements spécifiques à la question de l'exportation de main-d'œuvre? Alors, a priori, c'est marginal, parce que même si on parle de 150 000, 200 000, 300 000 à l'échelle d'un budget d'État, et d'ailleurs, on a les comptes du budget d'État nord-coréen, ça représente de toute façon pas grand-chose. Il faut pas se leurrer sur le fait qu'effectivement, ces travailleurs sont envoyés par la Corée du Nord à l'étranger. A priori, d'après les données qu'on a avant la pandémie, c'est plutôt des gens qui sont volontaires, parce que déjà, ça leur permet de sortir du pays. Et deux, ça te permet de toucher des salaires, alors aussi ridicule soit-il, en devises. Alors le tout, effectivement, il y a plusieurs documentaires qui l'ont montré en travaillant dans des conditions qui sont absolument, absolument abominables. La question, c'est est-ce que ces conditions de travail sont mieux ou moins bien que ce qui les attendait en Corée du Nord en termes d'opportunités financières? C'est sûr, beaucoup plus intéressant pour les Nord-Coréens d'aller travailler à l'étranger. Et alors là, il faut être très mesuré, parce que je suis pas sûr que ça soit encore le cas. D'après les quelques travailleurs nord-coréens que j'ai pu rencontrer à l'étranger, essentiellement des gens qui venaient du sultanat d'Oman et qui étaient dans la construction, revenir avec des devises plein les poches, même si effectivement on parle de quelques centaines, quelques milliers de dollars pour des gens qui partent 3 ans dans des conditions qui sont abominables, ça permet de changer significativement déjà son niveau de vie. Et ça permet de mettre en œuvre des projets dans le cadre de cette libéralisation dont on a parlé, d'ouvrir des restaurants, etc. Ça pourrait avoir un effet à terme transformateur sur l'économie de la Corée du Nord. Donc,
mais le pouvoir nord-coréen tire surtout ses ressources financières de l'armement, également, je crois aussi, de la pêche et des minerais, Théo Clément?
Minerais, alors, avant la pandémie, en tout cas, effectivement, les exportations de minerais était alors essentiellement en direction de la Chine, du charbon. La Corée du Nord est assise sur un revenu pharaonique en termes d'exploitation des minerais, les quotas de pêche qui sont exploités par les entreprises chinoises, ce genre de choses. L'armement, effectivement, alors là, c'est plutôt quelque chose. Ça a été le cas dans les années 80-90. Il y a eu une pause où là, on parlait de volume qui était quand même relativement peu significatif. Mais là, depuis effectivement ce renouveau de la relation avec la Russie, la Corée du Nord a repris des exportations d'armement qui sont beaucoup plus musclées en direction du front vers l'Ukraine. Et il n'est pas impossible que la partie russe repaie ses exportations avec des matières premières, notamment du pétrole, dont l'économie nord-coréenne a vraiment beaucoup besoin.
Et oui, aujourd'hui,
après, l'argent, c'est fongible. Et il est très difficile de savoir, de ses revenus, où est-ce que ça va dans l'économie de la Corée du Nord? Est-ce que ça va dans les coffres de la famille Kim? Est-ce que ça va dans les constructions? Est-ce que ça va dans l'infrastructure? Est-ce que ça va dans les programmes sociaux? Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas non plus tout voir en noir. C'est très, très, très compliqué à partir du moment où l'argent retourne en Corée du Nord.
Oui, et puis bien sûr, le financement de l'État nord-coréen reste très obscur. Pour conclure, Manon Prudhomme, comment le modèle économique nord-coréen peut-il évoluer selon vous ?
Oula, je ne suis pas...
On a bien compris que le modèle chinois, a priori, n'intéressait pas les Nord-Coréens. Ce que vous nous disiez, Théo Clément, ce modèle d'ouverture, de capitalisme à la chinoise, il est synonyme d'effondrement moral. Donc, a priori, on a du mal à imaginer que la Corée du Nord s'achemine vers cette voie. Est-ce que le pays pourrait poursuivre ce modèle hybride de relative tolérance vis-à-vis de ces marchés informels et en même temps, un fonctionnement qui reste un fonctionnement socialiste, Madame Prudhomme?
En tout cas, pour l'instant, depuis une dizaine d'années, ça fonctionne pas trop mal. Même avec une pandémie, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance d'un nouveau système politique, économique ou social. Hein. On est toujours sur une ligne assez constante. Moi, j'aime bien le terme période de transition. Je pense que, alors, sans pour autant rentrer dans des grandes considérations, mais je pense que la Corée du Nord aujourd'hui est dans une bonne période de transition depuis maintenant une dizaine d'années. C'est difficile de savoir ce qu'il en sera dans 5 ou 10 ans. On a vu, qu'une pandémie peut arriver finalement très très vite. Mais je pense qu'on est dans une période de transition. C'est difficile d'expliquer ou de prédire ce qui se passera après. Pour l'instant, ça fonctionne bien.
Sachant qu'une fois encore, ce qui a l'air de tout de même changer, c'est ce rapprochement, puisque avec la Chine et la Russie, puisque la semaine dernière, Kim Jong-un a salué un nouveau chapitre dans les relations avec la Chine. Et puis le mois dernier, à l'ONU, Moscou a mis son veto à la poursuite du suivi des sanctions internationales visant Pyongyang. Je ne sais pas si c'est déterminant, mais ça aura nécessairement un impact sur cette économie nord-coréenne, Théo Clément.
Je suis assez d'accord avec vous. En fait, en ce qui concerne l'avenir du pays, l'avenir du modèle économique nord-coréen, moi, il y a très longtemps que j'ai cassé ma boule de cristal. Par contre, effectivement, l'élément extérieur, les relations avec la Russie, les relations avec la Chine, l'évolution de du schisme ou du moins du découplage annoncé entre l'Occident et certains pays qui gravitent dans l'orbite russo-chinoise, même si j'aime.
Merci. Pardonnez-moi, merci beaucoup à tous les deux. Comme vous êtes à distance l'un et l'autre, je rappelle Manon Prudhomme à Châteaurouge, Théo Clément en Tanzanie. C'est compliqué parfois. Merci beaucoup de nous avoir ainsi éclairé sur tous ces enjeux. Je rappelle Théo Clément que vous êtes chercheur et que vous avez travaillé sur l'engagement économique de la Chine à l'égard de la Corée du Nord. Et puis Manon Prudhomme, vous êtes chercheuse à l'EHESS, membre du laboratoire Chine-Corée-Japon. Grand merci à tous les deux et merci à Christian Bellaire de France Bleu Berry qui a assuré ce duplex. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, comme chaque jeudi, nous explorons l'économie selon un artiste. Et il sera question de la romancière biélorusse, prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, avec Françoise Dossé et Galia Ackermann. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.